Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
C'est évident qu'en ce moment, la crise du coronavirus prend énormément de place dans les médias. On est en programmation spéciale ici même à Cube Radio. Les chaînes de télé de nouvelles en continu sont en débrouillage. On se renseigne à fond. Et à travers tout ça, c'est bien évident aussi qu'il allait avoir des drames qui allaient un peu passer sous couvert parce que justement, notre attention est très orientée vers ce qui se passe en ce moment, vers la pandémie. Et on avait déjà plusieurs experts qui s'intéresse justement aux disparités, aux injustices économiques, avait un peu sonné l'alarme en disant, écoutez, là, la pandémie va encore plus contribuer à creuser le fossé entre les gens qui sont privilégiés et les gens qui sont moins privilégiés. Et la DPJ, quand même, était au cœur des questionnements. Il y a Régine Laurent qui a fait une sortie pas plus tard qu'hier, je crois, pour dire, écoutez, là, la pandémie n'est rien pour aider les enfants de la DPJ. Et il s'est passé quelque chose d'horrible, un drame sans nom. Il y a un enfant de 2 ans qui est mort jeudi dernier à Joliette pendant une intervention de la DPJ. J'en parle avec Jade Bourdage, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, Jade.
Bonjour.
On n'est pas contente de se parler à ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est plate à dire, on va utiliser une expression qui s'en vient de plus en plus galvaudée à la DPJ, mais cette histoire-là, on aurait pu l'éviter. C'est un drame qu'on aurait pu empêcher.
Oui, absolument. On aurait pu l'empêcher. Maintenant, pour l'empêcher, il faudrait mettre en œuvre des solutions par rapport à la situation plutôt ordinaire. Parce que je voudrais faire la distinction entre deux situations qui se chevauchent actuellement, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouve la DPJ dans un contexte ordinaire et la situation dans laquelle elle se trouve dans ce contexte exceptionnel qui est celui de la crise de la COVID.
Mais avant, si tu veux bien, Jade, on va raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui n'ont pas suivi, parce que comme je disais, on est très, très ensevelis, et c'est correct aussi, là, par les nouvelles concernant la COVID-19, concernant la pandémie. On est anxieux par rapport à ça, et il y a certaines nouvelles qui passent un peu plus sur le radar. Ça s'est passé, donc, le jeudi 26 mars, des intervenants de la DPJ qui se présentent dans une résidence de Joliette. Les parents sont réticents à les laisser entrer. Ils insistent, ils ont accès au domicile et là découvrent des conditions de vie exécrables. On parle d'un logement insalubre, on parle de 4 enfants de cette famille-là qui avaient des champignons sur le visage, qui avaient des lésions à la peau. Bref, il y avait de la négligence évidente de la part des parents. Et à 14h ce jour-là, la DPJ a décidé de procéder au placement des 100 enfants, un placement donc d'urgence. Un enfant, donc il y avait un garçon de 6 ans, un autre de 2 ans, c'est celui qui a trouvé malheureusement la mort et 2 fillettes, 2 jumelles de 6 mois. Et les intervenants ont quitté la résidence pour quelques instants, le temps de trouver des familles d'accueil et d'installer des bancs d'auto dans les voitures. Et ce serait à ce moment-là que le garçon aurait perdu la vie. Et là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une intervention policière en même temps que celle de la DPJ. C'est un peu flou à ce niveau-là. Et l'enfant aurait été trouvé sur place en arrêt respiratoire. Et cet enfant-là, je veux le préciser, avait consulté un médecin des jours suivants le drame parce qu'il aurait eu des difficultés respiratoires. Il aurait été vu et aurait eu une prescription d'antibiotiques. Donc ça fait le tour de la situation, du moins ce qu'on en sait pour le moment. Est-ce qu'on comprend, Jade Bourdage, parce que tu parles de la situation de la DPJ en temps normal et de la situation maintenant avec le COVID qui aggrave un peu cette situation-là, c'est que cette famille-là, elle avait déjà fait l'objet d'un signalement?
Oui, 2 mois auparavant, en fait, de ce qu'on sait, hein, dans les détails que l'on sait. Le 2 mois est absolument lié au délai qu'on connaît et pour lesquels a été déclenchée aussi la commission Laurent, parce que les délais sont beaucoup trop longs selon les cas de gravité. Donc, c'était 2 mois qu'il y avait d'attente pour ces enfants-là, pour l'évaluation. Et malheureusement, lorsque la DPJ se présente, elle suit son protocole très ordinaire, je veux dire, de quitter un lieu pour aller chercher une voiture, mettre des bancs, trouver la famille d'accueil. C'est un protocole ordinaire. Donc, c'est malheureux que ça soit arrivé pendant leur intervention très spécifique physiquement, mais on peut pas les tenir responsables que ça soit arrivé pendant le 45 minutes où ils ont quitté les lieux, parce que ça fait partie du protocole.
On verra.
Est-ce qu'on aurait dû laisser une personne sur place? Ça serait pas sécuritaire pour un travailleur de laisser une personne sur place dans un milieu dont on connaît pas la dynamique parentale. On sait pas s'il y aurait possibilité de violence ou d'agressivité puisqu'ils étaient réticents, ces parents-là. Donc, ça aurait pas plus été prudent de laisser un travailleur sur place.
Ce qui est préoccupant, Mme Bourdache, c'est qu'au moment où la DPJ son premier signalement, on classe ce cas-là, code 3. C'est le niveau de priorité le moins élevé. Néanmoins, quand on classe un événement code 3, on a 12 jours pour l'évaluer. Et là, vous avez parlé deux mois avant que la DPJ ne l'évalue.
Mais ça, les délais d'évaluation, ils explosent depuis des années. Hein.
Puis ça n'a rien à voir avec la COVID, là. Rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir avec la COVID. Et puis, on peut même s'attendre, comme le gouvernement provincial a fait un appel dans son point de presse maintenant, à ce que les citoyens soient vigilants pour surveiller les enfants qui pourraient être dans des situations comme celle-là et à appeler les services. Mais les attentes sont tellement longues, on peut soupçonner que même si un citoyen appelait pour déclarer une situation de négligence, par exemple dans son voisinage, ou qu'il soupçonne qu'un enfant est maltraité, les délais sont de toute façon trop longs actuellement. Donc ça, c'est une situation qui relève de l'ordinaire et ce qui nous arrive actuellement collectivement ne change rien à l'affaire par rapport à ça.
Là, je vais marcher sur une douzaine d'œufs.
Oui, allez-y. On marche tous sur des œufs, hein, vous le savez.
Est-ce que le fait que ça se passe dans une famille autochtone, la nation Atikamekw, ça a pu faire une différence dans la perception des intervenants, le délai de traitement de ce dossier-là?
Oh,
parce qu'on le sait, on le sait qu'à la DPJ, il y en a eu des cas de racisme systémique. Là. On a eu des gens ici même à ce micro qui sont venus nous en parler.
Absolument. Mais oui, vous avez raison, il y a de ça dans les pratiques de la DPJ. Cependant, est-ce que c'est le cas dans celui-là? Ben, on sait pas vraiment parce que deux mois, souvenez-vous, on en a, c'est du trois mois d'attente. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a deux mois d'attente? Non, parce que c'est généralisé à l'ensemble du territoire. Donc oui, il y a des pratiques de racisme systémique qui affectent le travail à la DPJ et qui doivent être questionnées et qui doivent être problématisées. Mais est-ce que c'est le cas dans un cas comme celui d'une liste d'attente puis des délais d'intervention? Je ne crois pas parce que c'est généralisé à l'ensemble du territoire puis à l'ensemble des DPJ du Québec. Donc, je serais prudente sur ce lien de causalité-là. Est-ce qu'on néglige délibérément ou on met un dossier de côté délibérément?
Mais je pose la question.
Oui, non, mais c'est une bonne question dans le sens où il faut poser cette question-là de comment le racisme systémique dans notre société, qui est le fruit aussi d'une histoire coloniale canadienne et québécoise, comment il affecte les pratiques dans nos institutions publiques, c'est une question majeure. Mais après ça, il faut faire attention, pas l'utiliser comme facteur explicatif pour une situation comme les délais d'attente qui sont généralisés à l'ensemble du territoire.
Est-ce qu'on pourrait penser dans ce cas-ci, Mme Bourdache, que tout comme c'est le cas, ça a été le cas en Estrie, on pourrait mettre la DPJ sous tutelle dans cette région-là?
Écoutez, j'avais déjà dit il y a un mois que je trouvais que dans ce dossier-là, ça devrait être plus généralement le ministère de la Santé et des Services sociaux qui devrait être mis sous tutelle. Je vous dirais que la sortie publique du ministre au moment de cet événement jeudi n'avait rien pour apaiser la colère des citoyens et de notre collectivité. Parce qu'encore une fois, on nous disait, oui, c'est un code 3, c'est un délai, alors qu'on avait une situation dramatique. Je pense qu'il a réajusté le tir depuis ce temps-là. Je sais qu'en fin de semaine, il a contacté personnellement tous les groupes de défense de droits des enfants placés et même la cellule de crise qui s'est créée dans les conditions dans lesquelles on se trouve actuellement, donc SOS Enfance Placée. Il les a contactés personnellement pour avoir une discussion, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans le contexte actuel. Mais ce qui est délicat, c'est que ça fait des mois que des gens pensent à des solutions, notamment à travers la commission Laurent, pour un contexte ordinaire, comme je vous dis, ouais. Mais il y a également ce contexte exceptionnel qui vient exacerber d'autres problématiques et sur lesquelles on manque encore d'imagination, c'est-à-dire, puis c'est le cas dans toutes les institutions, actuellement, on réagit avec les outils qu'on a pour réagir dans des contextes ordinaires. Or, il n'y a plus rien d'ordinaire en ce moment, dans aucune institution. Donc, il faut se parler, il faut que le ministre parle à sa communauté dont il a la charge, qui est la DPJ. Donc, les travailleurs, les gestionnaires, les enfants, les adolescents. Jusqu'à maintenant, il y avait un silence de marbre dans l'espace public. Il y avait personne qui avait adressé la parole directement dans l'espace public à cette communauté-là. Donc ça, c'est très problématique. Il faut briser le silence actuellement.
Jade Mourdage, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'Université du Québec. À Montréal, évidemment, tout ça soulève des questions par rapport aux enfants vulnérables et la pandémie. Et je précise que c'est le jour même du drame, donc jeudi dernier, que la Commission sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse a publié un communiqué dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Régine Laurent rappelait que cette crise crée une zone de risque de maltraitance des enfants. C'est encore vrai. C'est plus vrai dans les familles déjà touchées par diverses problématiques personnelles ou sociales. Et on le sait, là, ce sont majoritairement les gens qui travaillent dans les services comme les écoles, les garderies qui font les signalements. Et vraiment, là, en ce moment, il y a des enfants qui